Не приемлю. Seigneur, toi qui as fait la bouche de l'homme pour qu'il parle à son prochain et te parle, accorde-nous maintenant l'intelligence pour te comprendre, aussi la sagesse pour parler de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, le Maître incontesté de nos vies. Amen. Sur un sujet aussi délicat, je n'insiste pas sur la caractère délicat de ce sujet, chacun en est persuadé, j'en suis sûr, il faut plus que jamais prendre le là, j'allais dire, au diapason de l'Écriture sainte. Et, bon, il y aurait d'autres lectures à faire, si on voulait y aller au boulet, il y aurait évidemment le grand passage de Romains 9, à partir du verset 7 jusqu'au verset 33, il y aurait un passage plus court, mais qui en dit long. C'est Marc 4, versets 10 à 13. Ce sont des versets difficiles. Au sein d'une belle image, sont tout assez faciles, la parabole du semeur. Et je vous propose, si on a le temps pour avoir les textes dont je parle, je vous propose la lecture de l'épître de Paul aux Éphésiens. Donc, Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de récapituler toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions dans la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Jusqu'ici, la parole de Dieu, il n'y a rien à y ajouter ni à y retoucher. Dans cette belle épître aux Éphésiens, vous avez 32 fois, sans me souvenir, la mention « en Christ », mais il y a tout de même, dans ce premier chapitre, des choses qui, comme vous l'aurez remarqué, touchent à notre sujet d'aujourd'hui d'une manière très nette. Je pense qu'il serait vain de vouloir prétendre exposer en détail et défendre dans les limites de notre quelque affaire ensemble la doctrine de la souveraineté de Dieu. Parler de la prédestination, c'est regarder au-delà de la réalité temporelle où sans cesse il y a un avant et un après. On est habitué à ça, évidemment, pour entrevoir l'éternité en succession. L'éternité sans commencement ni fin. Donc, il y a derrière quelque chose qui est très difficile pour nous, et ce sont la différence entre le cours de l'histoire, l'avant et après pour nous, et l'éternité. Dieu n'est pas débordé par le temps. Il n'y a pas temps pour lui, un après pour lui. Dieu n'a pas la même notion de l'actualité que nous. Nous, monsieur Jules César, c'est irrémédiablement du passé. Pour Dieu, Jules César, c'est le présent. Et, pareil, pour prendre tous les personnages que vous voulez du passé. Et il y a des personnages, nous ne savons même pas leur nom, leur prénom, parce qu'ils appartiennent sans doute à notre avenir. Mais ces personnages de l'avenir sont du présent de Dieu. Alors il y a une difficulté là, et c'est sûr que parler de la prédestination, de l'élection, entrer dans le conseil incompréhensible de Dieu. Et il y a une différence que nous faisons, c'est la différence entre la volonté de Dieu dans ses préceptes, dans sa loi, dans ce que Dieu nous a dit, dans ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande des choses, c'est clair et net. Ça peut nous plaire, ça peut ne pas nous plaire, mais c'est clair et net, il nous demande des choses. Mais là, c'est un autre aspect de sa volonté, c'est Dieu dans ses desseins, c'est-à-dire ce qu'il a décidé de lui-même, ce qui est en lui-même, le plan de Dieu, si vous voulez. Et là, évidemment, quelle audace ce serait pour nous d'essayer de nous fabriquer des échelles pour monter dans ce, grimper dans ce lieu secret en Dieu. Et parler de la prédestination, c'est entrer dans le conseil incompréhensible de Dieu que les anges adorent. Ces affaires difficiles, hein, incompréhensibles pour Dieu, mais elles sont incompréhensibles pour nous. Alors ici, qui peut comprendre? Celui qui peut comprendre, comprenne. Lorsque l'on parle de la prédestination, on veut souvent opposer, quelquefois même avec des pourcentages, deux grandeurs, l'une à l'autre, et qui se limiteraient mutuellement. D'une part, Dieu, d'autre part, la créature libre. Et on peut jouer à des pourcentages, on peut dire, Dieu, vous le verrez, et mettons 50% souverain, et l'homme 50% libre et responsable. Mais on le verra, on peut inventer tout le système possible mathématique en disant que l'homme est responsable de tout à 99%, mettons, et Dieu est souverain à 1%. Ça, je n'entends pas trop dire, mais on peut dire l'inverse, que Dieu est souverain à 99% et que l'homme est responsable à 1%. Vous voyez, on peut jouer à des mathématiques à l'infini. Pour moi, qui suis plutôt dans une colonne littéraire, je ne vais pas jouer avec ces chiffres de bon prix. Alors, en général, ce que l'on donne à l'un, à l'une de ces deux grandeurs, on la lève à l'autre. Vous voyez? Si on prête trop à Dieu, à ce moment-là, on enlève à l'homme de sa responsabilité. Et si on donne trop à l'homme, est-ce qu'on n'enlève pas quelque chose à Dieu? Vous voyez? Donc vous avez deux grandeurs, c'est cette souveraineté de Dieu et c'est la décision humaine. Voilà. Voilà le problème là. Il faut commencer, à mon avis, par là. Même si l'on veut simplifier, il faut commencer par là. Hein? Alors, il y a trois tendances. La première, donc ça vous donne le plan de ce que j'aimerais vous dire essentiellement. La première, c'est l'hyper-calvinisme. Ce sera la première partie, l'hyper-calvinisme. Deuxième partie, l'arminianisme. Alors, A-R-M-I-N-I-A-N-I-S-M-E. Les Arméniens n'ont rien à voir avec ça, hein. Les gens d'Arménie, hein. C'est l'arminianisme, ça vient d'un fameux monsieur Arminius qui a plié son ombrelle en 1609. Plié son ombrelle à Martial, ça veut dire mourir, hein. Il est mort en 1609, hein. Le fameux monsieur Arminius. Et de ce fameux monsieur Arminius vient l'arminianisme. C'est pas compliqué quand même. Alors, troisièmement, ça sera la foi réformée. La troisième position. Eh bien, je commence par la première. L'hyper-calvinisme. C'est déjà gênant parce que il y a le mot de Calvin là-dedans. Vous avez remarqué ça, que dans l'hyper-calvinisme, il y a le mot de Calvin, hein. Voilà. Eh bien, c'est bien, il faut remarquer ça. Mais en fait, le nom de Calvin est attaché à tort. Dans cette position. Et je le verrai tout à fait se dresser là, au milieu de nous, et pousser une petite gueulante, vous voyez, en disant, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi vous attachez mon nom à cette affaire du numéro 1, hein? Alors, attention, hyper-calvinisme n'est pas un calvinisme plus strict. Il y a des gens qui sont un peu plus ronds et il y a des gens qui sont un peu plus carrés de tempérament, de conviction. Il y a, hein, vous le savez ça. Il y a des gens qui sont qui ont des angles un peu arrondis et puis il y a des gens qui sont un peu bouillon cube, carrés. Voilà. Ça dépend du dosage évidemment de la soupline. Hein. Et alors, ça veut dire que est-ce qu'il y aurait un calvinisme, on pourrait entendre qu'il y ait un calvinisme souple, avec beaucoup de soupline, et un calvinisme plus dur, plus raide, plus hard. Qu'est-ce que c'est?
Avec du calcaire.
Avec du calcaire, bravo, aidez-moi. Hein. Il y aurait du calvinisme avec du calcaire, vous n'avez pas prévu de vous dire tout ça cette nuit, hein. Qui serait un calvinisme plus strict, plus extrême, plus poussé à bout. En fait, plus conséquent, si vous voulez. En fait, c'est une autre doctrine que celle de Calvin. Calvin n'y reconnaîtrait pas ses petits. Alors, je vais appeler cette position le pseudo-hyper-calvinisme. Le pseudo-hyper-calvinisme, Michel Donner doit se faire du souci parce qu'il m'a répété qu'il fallait que je parle de très simplement. Mais on va voir, hein. Je vais vous décrocher pas du tout, hein. Bon, le pseudo-hyper-calvinisme établit une symétrie entre élection et réprobation. Dans l'élection, il y a ceux qui sont élus, et dans le mot réprobation, c'est les non-élus, c'est ceux qui sont réprouvés. C'est une espèce de parallélisme strict, une symétrie entre élection et réprobation conçu dans un décret de Dieu pétrifié, impersonnel, abstrait. Et du coup, l'élection a un biais, j'allais dire en vieux provençal, une allure d'acte arbitraire. C'est un déterminisme, une espèce de fatalisme où Dieu, par son bon plaisir, choisit les uns pour le salut et damne les autres à l'incrédulité et à la mort. Et l'idée généreuse derrière, il y a toujours une idée généreuse dans les choses, c'est un souci de rendre gloire à Dieu. Mais à force de vouloir rendre gloire à Dieu, on a accentué sa souveraineté et on a accentué sa souveraineté à tel point que la part de l'homme perd toute portée, perd toute signification. Et on en arrive à certains dans les rangs de l'hypercalvinisme qui finissent par dire que la prédication, l'annonce de la parole de Dieu, ne s'adresse pas à tous les hommes. Donc c'est inutile d'aller se crever, aller évangéliser partout, etc., etc. Et comme le film avec Alice sur les plages de Languedoc-Roussillon, dans le cadre de Punch, etc. C'était très fatigant cette histoire de Punch, hein. On a sué sans héros sur les plages, etc., pour annoncer le Christ, etc. Et finalement, c'est pas la peine. Il faut seulement évangéliser, si vous voulez, prêcher aux seuls élus. Alors on détecte, avec des antennes, je ne sais pas comment on dit, c'est un peu délicat, on détecte les élus, on dit si celui-ci a une tête d'élu, hein, et on les rassemble si on peut, et on leur parle, et donc il ne faut inviter à la repentance que les personnes qui donnent déjà des signes clairs et nets de leur élection. Vous voyez? Donc on se dit, tiens, voilà, là les signes, et donc je peux prêcher. Là, par exemple, signe d'élection, c'est le sentiment du péché. C'est un des signes pour les gens de cette tendance. Hein. Alors, voilà, celui qui arrive, mettons, se rend, etc., sur ses péchés, sur le péché de sa vie, sur le péché, etc. Alors là, on se dit, bon, on peut prêcher à celui-ci, hein, il y aura droit à toutes les prédications et tout, parce qu'il porte les signes de l'élection. Et d'ailleurs, en anglais, on appelle ça sensible sinners. Qu'est-ce que ça veut dire traduire pour voir hein?
Sensible sinners.
Oui.
C'est les pécheurs qui sont un peu plus sensibles à péché, je ne sais pas.
Voilà. Je pensais que vous nous diriez un autre mot que sensible, parce que ça, nous, on peut le faire aussi, hein. Pécheurs sensibles, ça. Voilà. Bon, aussi, bon. Alors, voyez, voilà. Ça veut dire que, vous voyez, je m'adresse à des gens qui montrent une sensibilité, etc., de pécheurs, et finalement, on voit bien qu'ils sont élus. En fait, dans la balance que j'essaie de mettre dans nos esprits depuis le début, entre la souveraineté de Dieu et, pour faire gros, la liberté de l'homme, la responsabilité de l'homme, quand je dis, vous avez déjà fait le coup, mais c'est pour Michel, quand je dis l'homme, j'en pense aussi des femmes, hein, Michel, que je dis ça, les autres m'avaient entendu déjà sur cette expression, bien sûr, on radote déjà, bien sûr, ici, pardon. Alors, en fait, oui, dans la balance, la décision humaine ne pèse plus très lourd. C'est Dieu qui est exalté, 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 mais l'homme va bon fort. Ça va? Vous êtes tous là? Eh bien, nous passons à la deuxième partie. Non, je continue quand même. Pour parler quand même de cet hyper-calvinisme, hein. C'est quand même une accentuation sur le bon plaisir divin, vous voyez, sur un espèce de destin fatal et arbitraire. Un peu, si vous voulez, même beaucoup, dans le sens de, vous entendez ça dans certains endroits, c'est écrit. Vous voyez, c'est comme ça, c'est écrit, on ne peut plus bouger, voilà. L'avantage de cette doctrine, c'est qu'on vraiment on voit bien la souveraineté de Dieu. L'inconvénient, c'est que la décision de l'homme n'est pas mise en relief. Alors, comment juger cette position bibliquement? Eh bien, bibliquement, on s'aperçoit que, certes, Dieu est tout puissant. Mais la puissance de Dieu est à la disposition de sa sagesse et de sa sainteté. Ça veut dire que les actes souverains de Dieu restent liés à sa propre sagesse, à sa bonté. Et c'est même Calvin lui-même qui a dit « Dieu a une puissance telle que sa justice en est la vraie règle. » Ça veut dire que Dieu n'est pas le Dieu potentat, absolu, qui dirait « bah, c'est moi, je vous écrase tous, etc. » Ça veut dire que Dieu n'est pas sans loi, vous voyez. Il n'est pas ex lex, il n'est pas hors la loi. Il n'est pas étranger à toute loi. Dieu est loi à lui-même. C'est-à-dire, sa loi se situe en rapport avec sa propre sagesse et avec son amour. Alors, la deuxième position. Grand 2, l'arminianisme, toujours à R, M-I-N-I-A-N-I-S-M-E, l'arminianisme, lui, fait l'inverse, c'est-à-dire que dans ce rapport souveraineté de Dieu, responsabilité, liberté de l'homme, il valorise l'homme. Et c'est sympa. Nous sommes des hommes, et donc c'est sympathique. Vous voyez. Donc, il insiste sur la décision de l'homme, mais du coup, il y insiste tellement que il peut finir par limiter, minimiser la souveraineté de Dieu. Alors, il y a ceux qui vous disent que Dieu n'est pas tout à fait souverain, avec une omnipotence, toute puissance, limitée. Il y a ceux qui disent, ah, mais Dieu est complètement souverain, sauf en ce qui concerne la décision de l'homme. Il est complètement souverain, sauf en ce qui concerne la décision de l'homme, que Dieu ne prédétermine pas. Alors ici, il n'y a plus vraiment prédestination, il y a ça veut dire avant, hein, pré-science, avant la connaissance, pré-connaissance. Futurition, vous voyez, c'est Dieu qui voit à l'avance, parce qu'il est Dieu, qui voit à l'avance ce que fera l'homme. Et finalement, C'est bien qu'il le voit à l'avance, hein. Mais en même temps, est-ce que finalement, c'est pas un Dieu qui attend l'arbitraire de ce que va décider l'homme? Vous voyez, ça veut dire que, vous voyez la différence, hein? La préscience, c'est une prévision. Vous voyez? Dieu prévoit que l'homme, voilà, peut-être il fera ceci, il fera ça après tout, puis tout à coup, l'homme peut faire ce que Dieu n'avait pas prévu. Alors, ça veut dire qu'il y aurait en Dieu un peu de l'imprévisible, vous voyez? Il y a des endroits où Dieu, vraiment, il ne sait pas. Un peu d'indéterminisme. Voyez alors, cette position voit dans l'action de Dieu et dans l'action de l'homme deux éléments complémentaires, ça c'est bon, ça se complète, mais limitatifs. C'est-à-dire, là où commence l'œuvre et la volonté de Dieu, là s'arrête l'œuvre et la volonté de l'homme, et inversement. Et finalement, cette position va conduire inévitablement, alors je dis un mot difficile ici, hein, au synergisme. S-Y-N-E-R-G-I-S-M-E, le synergisme, c'est un peu compliqué ce mot, mais si je dis collaboration, vous comprenez mieux, hein, c'est la collaboration entre l'homme et Dieu, c'est-à-dire que la part de Dieu dans le salut est vraiment fondamentale, les gens de cette position en sont persuadés, mais elle est complétée par la part de l'homme, qui, en ce qui concerne le salut, est restreinte. Ça peut être une petite part, mais c'est quand même une part décisive. Décisive. Vous voyez, même la chose que je vous laissais au départ, lancer au départ, si Dieu est 99% souverain, et l'homme responsable pour 1%, eh bien ce 1% est quand même détermine tout, est quand même décisif. Vous voyez, c'est le coup, je ne le fais pas devant vous, parce que j'ai peur de me faire gronder, hein, mais si j'arrivais avec ma fameuse eau Kézak, joli nom, hein, et si je la vidais dans ce verre-là, il y aura toujours un moment où il y aura une certaine goutte décisive, si c'était avec un compte-goutte pour vos médicaments le soir, ça serait évidemment encore plus évident. Il y aura tout à coup, hein, tout à coup, une goutte qui va faire déborder le verre. Alors c'est une petite goutte de rien du tout. Hein. Notez que même l'océan est rempli de gouttes. Hein. C'est qu'une petite goutte de rien du tout. Une petite larme de goutte, mais cette petite larme est tout de même décisive. Je suis tenté de faire la chose devant vous. Cette petite larme est quand même décisive parce que à un moment donné, ce verre, tout autour c'est sec, voyons ces gens-là, là, non mais ce verre apostolique est tout bon. Eh bien, tout à coup, l'eau va sortir, nécessairement. Vous comprenez? Eh bien, c'est cette petite goutte qui va tout changer. Mais alors, si Dieu est souverain dans tous les domaines, si c'est le grand Dieu, etc., de la création, du tonnerre, du cosmos, des galaxies, et si tout à coup, il n'est pas souverain dans cette toute petite gouttelette, est-ce qu'il est vraiment souverain? Vous voyez? Je ne suis pas obsédé par les gouttes, hein, Si vous prenez et l'idée d'une plage, vous voyez, Dieu est le maître de l'univers, il est le maître de tous les cosmos, etc., le maître de toutes les galaxies, mais il y a une petite place ou une petite plage quelque part où il ne règne pas et qui serait ma propre volonté, qui échapperait complètement à Dieu et où Dieu pourrait être complètement baba au room de ce que je déciderais ou pas. Quand je dis « je », c'est vous aussi qui vous dites « je » avec moi. Vous voyez, il y a une petite plage non atteinte par le péché où l'homme pourrait dire que Dieu se met en roue libre maintenant, il fait un peu chez le long, et moi là, je décide. C'est moi qui décide. Tout le reste est d'accord, vous voyez, il est le grand Dieu, etc. Mais là, ça c'est ma part à moi. Alors, quels sont... Bon, les avantages, c'est que ça tient compte de l'homme. C'est bien. Les critiques négatives que l'on peut faire brièvement à cette position sont, à mon avis, celles-ci. Dans la Bible, le vouloir de Dieu n'est jamais mis en échec. On voit Dieu qui accomplit toujours son plan, même s'il est un peu différent de nous-mêmes, hein. Il y a la difficulté aussi de faire le partage entre toute l'eau du verre et la petite goutte, entre la souveraineté de Dieu sur tout l'univers et une petite plage où Dieu serait mis entre parenthèses. Ou bien il y a de faire le partage entre les événements mineurs et les événements majeurs. Oui. Ma Sainte Mère est comme ça, elle-même. Elle a changé. Elle était avant. Maintenant, elle a changé. Elle a changé de position. Ma mère, toujours, elle a été habituée, c'est le milieu libéral de son enfance, elle a été habituée à prier, etc., elle lit la Bible, tout ça, c'est bien, et elle était toujours persuadée qu'il fallait dire à Dieu, pour nos vies, les grands problèmes. Alors là, ma mère fait la grande piétiste, là, fondamentale devant son Dieu, elle questionne Dieu, elle prie. Mais alors, elle trouve qu'il ne faut pas embêter Dieu avec des petits détails. Alors comme elle est très généreuse, elle finit par... alors, elle prend le souci de tous les petits détails et elle le laisse les grandes affaires à Dieu. En tout cas, elle le faisait jusqu'à un certain temps, maintenant elle a changé. Et alors voilà, par exemple, alors elle n'aime pas le dentiste, hein, ça peut arriver, hein, aller chez le dentiste, et elle se dit toujours que c'est pas la peine d'aller embêter Dieu avec son histoire de petites dents, vous voyez. Alors je lui dis, mais quand c'est important pour toi ton affaire de ratoune et de dents, voyez-vous, vous voyez ce que je veux dire là? Ça n'a rien contre ma mère, elle n'a pas téléphoné, ne fait pas ça. Bon, hein. Vous voyez la différence, comment faire la différence entre les événements, les grands événements et les petites choses. Moi, j'ai l'impression que les petites choses sont aussi importantes que les grandes, hein. Et c'est bien aussi physiquement, puisque je suis un petit pot, hein. Il n'y a pas que les grands, que les grandes et hautes tailles, hein. C'est tout ça pour Michel, la nouvelle là, l'ancienne, c'est parce qu'elle a un fils, il paraît, de 2 mètres. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est quand même bien que Dieu s'intéresse aux petits pots et que Dieu s'intéresse, d'abord c'est dans les petits pots qu'il y a les meilleurs donjons, et puis que Dieu s'intéresse aux détails. Vous voyez, donc, il y a une difficulté entre les partages entre événements mineurs et événements majeurs. Et on ne voit pas dans la Bible le dessein de Dieu qui est laissé à la dérive à cause d'éléments indéterminés. Et vous avez ri j'ai bien voulu. Vous avez ri de ma maman avec son dentiste, hein. Bon. Mais en réalité, Pascal a fait le coup déjà avec sa grande formule. Voilà ce que dit Pascal. Il faut à Dieu décider de la longueur du nez de Cléopâtre s'il veut déterminer la face du monde. Et vous prenez la série de ces Cléopâtre, vous savez la fameuse bande dessinée, hein, et vous voyez que c'est une jolie femme, etc., mais l'importance de son nez, hein, qui est perçonné en colère, etc. Bon, eh bien, il ne faudrait pas que pour Dieu, vous voyez l'interrogation de Pascal, il ne faudrait pas que pour Dieu, la longueur du nez de Cléopâtre soit une surprise. Qui ça se passe, ça? Il sait tout sauf la longueur du nez de Cléopâtre. Mais alors, est-ce qu'il est vraiment Dieu, vous voyez Pascal? Un philosophe, hein? C'est vous qui vous intéressez à Pascal, hein? S'il y a des questions là-dessus, vous répondrez, hein? Bon. Alors, ça veut dire qu'il y a une espèce d'impossibilité que le Dieu Tout-Puissant ait limité une partie de sa puissance à l'état d'imprévisible, de simple virtualité, voilà, de choses qui surprendraient finalement Dieu. Eh bien, si vous êtes tous là, saints de corps et d'esprit, pas complètement noyés encore dans l'eau, et pas non plus rêveurs sur la plage que j'ai évoquée, ni terrorisés par le fauteuil du dentiste, je vous amène à la troisième partie, c'est la foi réformée. Je signale, je l'ai là, hein, que c'est l'article 12 de la Confession de foi de La Rochelle, on peut parler de tout ça, bon, il faudrait commenter toute la Bible aussi, donc voilà, tous les défis qui sont devant nous. Donc j'ai ouvert la Bible et aussi la Confession de foi de La Rochelle, hein, l'article 12. Voilà, alors la foi réformée, vous voyez, je n'ai pas dit le calvinisme, hein, pour pas que Calvin sorte de quelques trous et rouspète, hein, c'est mieux de dire la foi réformée. La foi réformée, troisième partie, ne voit pas, elle, de concurrence entre la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme, la responsabilité de l'homme. Elle ne voit pas de concurrence, elle ne voit pas. Elle ne le voit pas. Elle ne voit même pas de tension entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Calvin part de la Bible, il ne va pas chercher à la rationaliser, et il va parler de cette doctrine comme d'une réalité positive. Et il ne va pas chercher à enlever le mystère. Soit d'un côté, soit de l'autre. Soit du côté de Dieu, soit du côté de l'homme. La souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme s'appuient l'une sur l'autre. Et là, pour le coup, je vous fais un schéma que j'invente, hein, au tableau qui est derrière. Hein, donc, on va faire un dessin ensemble pour voir. Hein.
Michel ne savait pas que j'étais devenu dessinateur, hein. Il y a plusieurs formes d'art. Vous voyez le dessin, alors, vraiment historique, qui fera date, hein. Voilà. Alors vous avez d'un côté Dieu avec sa souveraineté. De l'autre côté, l'homme avec, sa liberté, la responsabilité. C'est sûr que je vous fais depuis le début, hein. Je vous fais spectacle depuis le début là-dessus, hein. Vous avez d'un côté la souveraineté de Dieu, de l'autre côté la liberté et la responsabilité de l'homme. Et vous voyez les pourcentages auxquels je me suis livré, et aux autres que vous pourrez inventer astucieux comme vous l'êtes, vous pouvez marquer là, selon que vous voulez donner plus à Dieu, et enlever du coup à l'homme, ou donner à l'homme et enlever à Dieu. Et alors la difficulté, alors pour Calvin, lui, il accepte que Dieu soit souverain à 100%. Alors c'est extra, vous voyez. Et on se dit, et l'homme là-dedans, il lui reste quoi sur les 100%, vous voyez. Même un littéraire comme moi comprend le problème. Et puis tout à coup, on voit Calvin qui donne à l'homme 100%. Alors on se dit, ça c'est formidable, c'est encore mieux que les Arméniens, au lieu de faire du 50-50, du 1, de, au lieu de faire du 70%, du, même du 90%, du 99%, on fait du 100% pour l'homme. Alors du coup, problème, qu'est-ce qui reste pour Dieu, vous voyez? Ça veut dire, c'est que chaque chose est vraie, à fond, mais notre difficulté à nous, c'est de réunir et de penser ces choses ensemble. Et la difficulté, hein, c'est la clé de voûte. La clé de voûte ici, comment elle arrive à résorber la difficulté mathématique, voyez.
Voilà, donc nous avons la souveraineté de Dieu. Et nous avons la responsabilité de l'homme qui s'appuie l'une sur l'autre. Hein. Sinon, il n'y a pas de voûte. Hein. Il faut bien que ça s'appuie quelque part. Deux réalités vraies, 100% chacune à fond, juxtaposées, comme les deux arcs-boutants. Chacun vrai, chacun doit être solide. Hein. Il faut que ça marche à fond. Chacun vrai, considéré tout seul, indépendamment de l'autre, c'est facile, clair et net, mais c'est comment réunir les deux. Et la difficulté, c'est de les penser ensemble. Et la difficulté pour nous, très simplement, c'est de les croire ensemble. C'est-à-dire, c'est croire à ce 100% pour Dieu, croire à ce 100% pour l'homme. Vous voyez, deux principes qui semblent irréconciliables, exclusifs, mutuellement limitatifs, considérés dans une certaine logique, mais qui sont irréfutables. C'est irréfutable, bibliquement, que Dieu soit souverain à 100% et que l'homme soit lui responsable à 100%. Voilà. En réalité, c'est un semblant de contradiction. En tout cas, pour Dieu, il n'y a pas de contradiction dans ce que quelqu'un fait. C'est un semblant de contradiction, c'est ce qu'on appelle aussi une antinomie. Ces deux réalités, la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme, doivent être acceptées comme ça. La souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme doivent s'arc-bouter. Vous voyez le joli dessin au tableau, doivent s'arc-bouter en une arche sainte, facile. La seule chose, c'est la clé de voûte. C'est elle qui est mystérieuse.
Oui, ma jolie clé de voûte en bleu. Hein. Si vous êtes évidemment artisan, maçon, etc., vous devez rigoler, ou architecte, mais ça ne fait rien. Enfin, en tout cas, c'est joli. Hein. Bon, alors. Donc je reprends maintenant chaque partie. Bien sûr, je commence par Dieu. J'aurais pu commencer par l'homme, hein, mais je commence par Dieu. Donc, il y a dans ce principe de la foi réformée l'insistance sur la souveraineté de Dieu. La créature dépend entièrement de Dieu. Le Dieu est tout-puissant.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, vous le dites, créateur du ciel et de la terre. Il est tout-puissant, il est créateur, non seulement il est créateur, mais il est continuateur, il est recteur, souverain du monde. Il n'a pas abandonné sa création, et puis c'est fini, il continue. Le monde, c'est Calvin qui le dit, le monde ne peut durer une minute de temps sans lui. Il n'y a pas de sieste, hein? Il n'y a pas de sieste pour le bon Dieu, pas du tricot. Il faut que Dieu décide que le monde continue à chaque minute. Et la Bible martèle sans cesse l'affirmation de la souveraineté de Dieu. Nombreux sont les textes, hein? On nous dit, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on nous dit que Dieu fait ce qu'il veut de l'argile qui pétrit. Dieu opère tout selon le conseil de sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut de l'argile? Ça veut dire que la prédestination est un acte irrésistible de sa grâce. Dieu nous donne sa grâce, Dieu nous fait grâce. Dieu te fait grâce. Et finalement, c'est irrésistible. Au bout d'un moment, on ne peut pas résister à Dieu. Et cet acte est un acte éternel, plus ancien. Cet acte est plus ancien même que le temps où Saint Joseph était jeune homme. Plus ancien que la création de toute éternité, hein? Un acte éternel qui prédestine gratuitement à la gloire. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu fait le coup de s'emparer des meilleurs? Eh bien non. Il peut s'emparer des meilleurs, mais il peut aussi s'emparer des plus mauvais, et il peut même faire grâce et s'emparer des pires. Ce qu'il a fait avec moi, qui ne me trouve pas meilleure tête que celle du voisin, de la voisine, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce qu'on a de moins? On croit, il y en a qui ne croient pas. Et je connais plein de gens qui ne croient pas, qui ont meilleure tête que moi qui crois. Vous voyez? Et l'article 12 de la confession de foi de La Rochelle, de cette corruption et de cette condamnation générale où tous les hommes sont plongés, nous croyons que Dieu retire ce que dans sa volonté éternelle et immuable il a élu par sa seule bonté et miséricorde en notre Seigneur Jésus-Christ, et cela sans considération de leurs œuvres. Nous croyons, ça c'est plus facile jusqu'à maintenant, hein, c'est la suite qui est. Nous croyons qu'il laisse les autres dans cette même corruption et condamnation pour démontrer en eux sa justice, tout comme il fait briller dans les premiers les richesses de sa miséricorde. Car ceux-ci ne sont pas meilleurs que les autres, jusqu'à ce que Dieu les distingue selon le dessein immuable, tu bouges pas, selon le dessein immuable qu'il a arrêté, ça ne bouge pas non plus, en Jésus-Christ avant la création du monde. C'est avant Saint-Joseph tout ça, hein? Et Adam et Ève et tout. Et il n'y a d'ailleurs personne qui puisse s'approprier un tel bien par ses propres moyens. Puisque de nature, nous ne pouvons avoir un seul bon mouvement, aucune bonne disposition de notre volonté, ni aucune bonne pensée, jusqu'à ce que Dieu nous ait devancé et nous y ait disposé. Article 12 de la confession de foi de La Rochelle. Hein? Si vous n'avez pas encore là de confession de foi de La Rochelle, adressez-vous à mademoiselle de Védrine, qui en a des caisses dans l'une ou l'autre de, sous l'une ou l'autre de ces chapiteaux, hein. Bon, ou d'une autre personne. Vous voyez? Alors, cet article 12, c'est glorieux, mais ça t'accaffe quand même. est écrit pour l'encouragement et pour la paix. Pour l'encouragement et pour la paix. Je réponds là au titre qu'on a voulu me confier pour aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que la prédestination a pour corollaire la notion de certitude du salut. Pour M. Bru, qui aime les choses compliquées, de certitudo salutis. Il savait bien que je le taquinerais. Hein. Bon, tout le monde passe. Hein. Certitudo salutis, la certitude du salut. Calvin voit dans cette doctrine que la prédestination de l'élection, la plus solide garantie de la certitude du salut. Donc ce n'est pas un article pour nous troubler. Hein. Depuis que j'ai lu l'article 12 de La Rochelle, plus rien ne va, c'est la catastrophe. Hein, je vais de doute en doute, et finalement j'entre maintenant dans le mal-croire, etc. Pas du tout! Pas du tout. Cet article 12 est pour la consolation, pour la paix, et pour et c'est un article, et c'est une doctrine, celle de l'élection. Elle est là pour vaincre l'angoisse. Et c'est mieux que la relaxation psychosomatique. Vous voyez? Mieux que des médicaments qui apaiserait pour vaincre l'angoisse, il n'y a pas de moyen plus sûr, c'est l'expérience de tous les formés du 16e, du 17e siècle, il n'y a pas de moyen plus sûr, selon Calvin, que de se savoir élu de toute éternité. Se lever le matin, joindre ses pieds, un peu de dans un garde à vous devant Dieu, enfin chacun fait comme il veut, vous pouvez vous prosterner, vous mettre à genoux. Autrefois je me mettais à genoux, maintenant un peu moins, et vous voyez, j'ouvre les fenêtres, je me mets là, et je me dis, je suis élu de toute éternité, et c'est vraiment alors une paix. Hein. Et alors, j'ai trouvé, dans un sermon de Calvin, 70e sermon sur le Deutéronome, notre Seigneur n'a pas attendu que nous vinssions à lui, bien sûr, vinssions c'est de venir, hein, que nous vinssions à lui pour nous recevoir. Mais il nous a prévenus par sa bonté infinie de quoi? Avant la création du monde, il nous a élus. Il nous a offert sa grâce. Alors, les prédestinés ne sont pas mieux que les autres, ne sont pas meilleurs, ce sont des pécheurs, comme les autres, plus grands que les autres. Ce sont des pécheurs vaincus par la grâce. Comme il plaît à Dieu dans sa bonté, et sans regarder au mérite. Saint Augustin, le père fondamental du 4e siècle, parle de prédestination avant les actions bonnes, et avant toute notion de mérite. Et je me disais cette nuit que finalement, sans doute aussi, dans cette notion de Calvin, y a-t-il aussi une réponse contre le salut par les œuvres. Donc vous savez, les attaques de la forme du 16e siècle contre les bonnes œuvres pour le salut. Voilà, voyez, ce Dieu, comme il est souverain, 100%, et il n'est pas un sauveteur. C'est sympa un sauveteur, hein, qui met la bouée, tout ça, qui nous... Non, pas forcément, qui nous apporte une bouée, qui nous sauve. Dieu n'est pas un sauveteur, Dieu n'est pas un auxiliaire du salut. On va t'aider, mon gars. mais il est le sauveur. Il fallait qu'un grand pécheur, et surtout qu'un grand pécheur comme moi, ait pour le sauver un grand sauveur. Voilà.
Ça, c'est l'insistance
sur la gauche. Vous voyez, j'ai mis Dieu à gauche. Hein. Bon. Une insistance sur la gauche, sur la souveraineté de Dieu. Maintenant, je vais voir l'insistance sur la droite, sur la responsabilité de l'homme, hein, sur sa responsabilité morale, sur sa liberté, vraiment, hein, sa liberté fondamentale. Non seulement nous sommes libres, on n'est pas du tout un pantin au bout du fil et de ficelle, etc. Vous voyez, le coup du théâtre de marionnettes, etc. Non seulement nous sommes libres, mais c'est Dieu qui nous rend libres. Mais c'est Dieu qui permet, qui veut notre liberté. Dieu veut notre responsabilité. L'affirmation sans réserve que j'ai essayé de faire il y a un instant sur la souveraineté de Dieu, l'affirmation de la souveraineté de Dieu, non seulement cette affirmation 100% du côté de Dieu, si j'ose, cette affirmation n'exclut pas la responsabilité de l'homme, mais encore, elle implique. C'est parce que Dieu est ceci souverain 100% que nous sommes, nous, libres et responsables. Et en plus, nous serons sous la souveraineté de Dieu, au plus, nous serons libres. Nous ne sommes libres que parce que Dieu est absolument souverain 100%. Vous voyez ? Ça nous arrangerait qu'il soit même souverain 110, vous voyez ? Et je le dis alors crûment, nous sommes libres parce que nous sommes prédestinés. Vous voyez jusqu'où je vais. Nous pouvons agir de façon libre et responsable parce que tout est préconnu, prévu, et plus encore, vous l'avez compris, prédestiné par Dieu. Alors, Dieu n'est pas une nécessité impersonnelle extérieure à moi-même qui me contrarierait, qui me violerait. C'est pas une espèce de bombe extérieure à moi qui atterrit en moi, au-dessus de moi. J'ai décidé que, et puis bon, c'est un couvercle de la cocotte minute qui s'abat sur nous. Et ça, on n'apprécie pas. Moi, je serais dans une cocotte minute, je serais terrifié à l'idée d'avoir un. Vous voyez ? C'est ma cousine de Vauvert, madame Maggiorino, une cousine là-bas, Vauvert, hein. Elle m'a téléphoné un jour, elle m'a dit: cousin, il te faut un autocuiseur. Alors, Mademoiselle de Védrine sait qu'après l'époque Boino et toutes les époques que j'ai essayé pour trouver des trucs pour me nourrir, tout à coup ma cousine a eu l'idée comme ça qu'il me fallait un autocuiseur, que l'autocuiseur changerait ma vie. Alors, tout de suite, aller acheter un autocuiseur. Mais vous m'imaginez, hein, dans un autocuiseur, si petit comme je suis, j'arrive à le rentrer. Vous êtes là et tout à coup vous avez ce couvercle qui se rabat sur vous. Vous voyez ? Eh bien, ça ne plaît pas, ça, voyez-vous. Eh bien, Dieu n'est pas de cet ordre-là, il est comme un orfèvre qui peut agir à l'intérieur de moi-même, comme un dentiste suprême, qui serait un dentiste fabuleux, eh bien, qui peut agir en moi sans me violer, sans me faire du mal, et même en faisant que ça soit moi qui décide. Ça veut dire que cette dépendance de fils, cette dépendance filiale, je suis devant toi, mon papa, cette dépendance filiale me constitue libre. Dieu est capable d'agir en moi si finement que je ne vois pas que c'est une contrainte extérieure à moi-même. Dieu est intérieur, plus intime que moi-même. Et comme il est amour, eh bien, il est plus amoureux de moi que moi-même. Donc il ne peut pas me faire du mal. Dieu est capable d'agir avec... Oui, j'emploie des mots maladroits, excusez-moi, mais Dieu est capable d'agir avec une finesse, un tact personnel qui fait que, à aucun moment, je suis lésé dans ma liberté. Ça veut dire que Dieu est plus intime que l'intérieur de moi-même, mais il met ma liberté à son comble. Vous voyez, on aime ça. Dans un paysage des Alpes suisses, là, en recyclage vertical, devant un paysage immaculé, vous voyez, se dire, je suis libre. Donc, Dieu peut mettre au compte, Dieu met ma liberté et il me la donne sans mesure. Plus Dieu donne de réalité et d'énergie à la personne qu'il fait subsister, moins elle a conscience d'une contrainte qui l'empêcherait. Ainsi, rien n'arrive hors la volonté de Dieu. Toutes les choses sont inscrites dans la science de Dieu. Et c'est pourquoi elles arrivent. Comme homme, notre responsabilité n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la volonté décrétive de Dieu, les décrets de Dieu. Nous ne savons pas, nous les ignorons. Mais notre responsabilité est par rapport aux préceptes de Dieu. C'est par rapport à sa volonté révélée, par rapport à sa loi. Et Dieu se sert de l'obéissance et de la désobéissance des hommes. Et même celui qui se veut autonome, qui dit, ben moi je fais ce que je veux, ni Dieu ni maître, en réalité, il ne réalise son projet et même son mauvais projet que parce qu'il est inscrit dans le dessein de Dieu. Dans le même acte, le même acte peut être voulu par Dieu, par une intention d'amour, et aussi par l'homme, par une intention d'amour, ou aussi par une intention perverse. Et là, vous avez un passage fabuleux dans le livre des Actes. Il faut prendre le livre aussi, hein, dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 23, dans le grand discours de Pierre, Actes chapitre 2, verset 23, cet homme, il s'agit de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, j'ai mis dans la marge une lettre P pour marquer la prédestination. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et j'ai marqué ici dans la marge liberté de l'homme. Et vous avez d'ailleurs une doublure, pour qu'on soit sûr de bien comprendre, hein, vous avez une doublure de cette quelque affaire dans Acte 4. Je vais finir par parler comme Vincent Bru avec une notion de quelque affaire. Acte 4, 28. 27, hein. Ici, on parle. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint avec les nations et avec les peuples d'Israël. Ça, c'est leur liberté, leur responsabilité. Ils ont fait ce qu'ils pensaient. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Vous voyez, tout ce que les hommes ont fait contre Jésus, Dieu l'a intégré dans son ordre de salut, dans son plan éternel pour le salut du monde. Vous voyez, si Dieu ne le voulait pas vraiment, expressément, même ce que nous imaginons contre Dieu, ne pourrait pas se réaliser. Ça va loin. Et si, allez, si le diable, si les démons, si les hommes pouvaient poser un acte en dehors du dessein de Dieu, ça serait très grave. Vous voyez? Très grave. Alors, maintenant, on descend, j'allais dire sur terre, hein. On n'est jamais d'ailleurs, on n'a jamais quitté le vallée des vaches non plus. Hein. Donc je vais maintenant voir les choses plus pratiquement. De ce point de vue, qui est celui de la foi réformée, la prédication, et la prédication au sens large, pas seulement le dimanche, le fameux sermon, mais l'annonce de l'évangile sur les plages, dans les rues de Marseille, et dans l'endroit le plus difficile, j'allais dire au Beauvert ou Martiane. Vous êtes si nombreux à Beauvert, vous devriez aller un peu à Martiane pour voir un peu là-bas dans ce pays des taureaux, hein, si on ne pouvait pas faire une implantation, hein. Une aérie à Martial, hein. Bon, ne dites pas aux gens de l'ERF que je suggère la création d'une aérie à Martial, hein, car je veux pouvoir encore y prêcher. Bon, alors, la prédication, l'évangélisation, toutes les formes, la catéchèse, tout ce qu'on veut, ça s'adresse à tous les hommes indistinctement. Donc, on n'a pas le droit de dire, tiens, il a une tête de quelqu'un de sauvé, donc je vais lui parler de l'évangile. Ou celui-ci n'a rien à faire. Alors celui-là, vous voyez, celui-là n'a rien à faire, c'est pas la peine d'essayer. Pas du tout. Nous devons la volonté de Dieu à tous les hommes. Nous n'avons pas le droit de dire à quelqu'un, nous n'avons pas le droit de le faire. Et là, si tu ne crois pas, c'est parce que tu es réprouvé. Voyez, en conclusion. Voyez, la personne que vous recevez chez vous, etc., en partant, vous lui dites, bon, ben voilà, tu crois pas, je comprends, si tu crois pas, tu es damné, putain, c'est tout. Hein? Vous riez, mais on peut penser ça un peu dans sa tête, hein. Il y a des gens, d'ailleurs, qui finissent par le penser. Donc je n'ai pas le droit de considérer mon prochain, même le prochain le plus bas tombé, même le prochain le plus effrayantissime, je n'ai pas le droit de considérer mon prochain comme un damné. Ni de le lui dire, mais même de le penser. Parce que c'est grave devant Dieu de le penser. Parce que par politesse, on pourrait lui dire, bon, c'est quand même une tête, mais se dire, oui, finalement, celui-ci, il est cru. Pas du tout, hein. Et Calvin, qui était plein d'ennemis, Calvin aurait pu utiliser le dogme de la prédestination dans ses polémiques. Vous savez qu'il est très polémique. Il va au boulet rouge par moment, et eh bien il n'a jamais utilisé pastoralement, même dans des mauvais moments, le dogme de la prédestination, dans un sens que vous comprenez, il ne l'a pas fait. Vous voyez, il ne s'est jamais laissé aller à agiter devant ses adversaires, lui qui est polémique dans un siècle qu'il est, hein. Pas parce qu'il a un caractère de cochon, mais il est dans un siècle polémique, on aime ça, hein. On aime la bagarre, polémique, etc. Pourquoi pas? Après tout. Il ne s'est jamais laissé aller à agiter devant ses adversaires l'épouvantail de la damnation éternelle. Tu ne crois pas, tu es damné. Tu t'attaques à notre formatrice à Genève, tu es damné. Pas du tout. Il n'a jamais fait. Il a toujours considéré ce qu'il appelle les méchants. Vous reconnaissez la voix de Calvin? Il a toujours considéré les méchants au nombre desquels il comptait ses opposants. Il les a toujours considérés comme des élus potentiels, des élus en puissance de l'être. Tous ceux qui sont devant moi, tous ceux que je rencontre sur mon panier, dans mon travail, etc., sont des élus potentiels. Et donc, je leur dois tout le conseil de Dieu. Et, dans une quelque affaire effrayante, dans des bagarres, etc., qui est l'affaire Bertelier, où il a ce terrible Bertelier, etc., il ne dit jamais, écoutez, Bertelier, c'est un damné. Il ne le fait pas. Jamais. Notez que, entre nous, ne le répétez pas, entre nous, il traite Bertelier de chien. Il dit que Bertelier, c'est un chien. Je ne parle quand même par rapport au reste. Hein. Ça va? Vous suivez? Donc, aussi, très important, nous n'avons pas à faire le triage, les fameuses formes golden, etc. Vous savez, on fait des tris partout. Hein. Nous n'avons pas à faire un triage entre les élus et les reprouvés. Vous voyez? Et faire des colonnes. Et se dire, ah ben ceux-ci, ils sont élus. Les colonnes réprouvées, vous voyez. Non, c'est le jugement de charité. C'est le jugement d'amour. Je dois considérer chacun, même le plus adversaire contre Dieu, même celui qui est là avec le couteau entre les dents contre Dieu, c'est toujours à le considérer comme un élu en puissance. Donc je m'adresse à lui jusqu'au bout. Au-delà du bout, et je lui dirai, crois, jusqu'au bout. Voilà. Donc, nous ne prêchons pas, nous n'annonçons pas, vous-même, les grands conseillers des paroisses, etc., nous ne prêchons pas du tout à des élus. Nous ne prêchons pas du tout à des réprouvés, en tant qu'élus, en tant que réprouvés, nous ne le savons pas. C'est le conseil de Dieu. Mais nous nous adressons tout bonnement, tout simplement, et la simplicité est difficile, nous nous adressons à des pécheurs qui ont besoin du salut comme les autres. Vous voyez, la question n'est pas s'ils sont prédestinés ou pas, mais la question est, croyez-vous en l'Évangile? Et s'ils veulent croire au message de l'Évangile, et si, par conséquent, ils veulent être élus, et s'ils le veulent, c'est qu'ils sont élus. C'est que Dieu a mis ça en eux, sa volonté. Si les pécheurs voulaient se repentir et croire, ils seraient sauvés. Il y a des gens même qui m'ont fait le coup, pas forcément un mauvais coup. Ils m'ont dit, je suis un réprouvé. Je suis un damné. Je viens vous voir, mais je suis un damné. Moi, je réponds toujours, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Allez, vas-y, crois. Et à celui qui se croirait damné, Ça se trouve aussi dans la cure d'âme, etc. À celui qui se croirait damné, Dieu expressément lui ordonne le roi. C'est Dieu qui dit quoi. Et c'est Jean 6, 35, grande affaire hein, que ce passage de Jean 6. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et d'ailleurs, c'est très beau. Il faudrait faire une étude biblique. Faites-la chez vous avec Jean 6. Vous avez un verset qui semble soutenir la souveraineté de Dieu et l'exalter, et vous avez le verset d'après, quelquefois même le même verset, qui insiste sur la responsabilité et la liberté de l'homme. Vous voyez, Jean 6, 35, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Alors tout à coup là, il y a comme la prédestination, vous voyez là. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Prédestination. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Complète liberté. Allez, viens. Et c'est tout le chapitre là. Je n'ai pas le temps de le faire devant vous, car je veux quand même terminer. Et celui qui voudrait croire qu'il est réprouvé, ça voudrait dire qu'il veut renier le Christ. Il y en a qui me disent, je suis peut-être réprouvé parce que je ne suis pas idéal, ceci, cela, le reste, et je leur dis, mais enfin, voulez-vous renier le Christ? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ah ben non, c'est que vous n'êtes pas réprouvé. Attention, la réprobation, car je n'en ai pas parlé de l'aspect négatif pour nous, la réprobation n'est pas une prédestination au mal. Chez Calvin, il y a certes la mention réprouvé, mais il n'y a pas une véritable élaboration d'une doctrine de la double prédestination symétrique. Si vous comptabilisez, il y a dans l'institution de la religion chrétienne de Calvin, une disproportion. Il y a une asymétrie entre l'exposé sur le salut, moi j'ai compté 10 paragraphes dans les éditions Kérigma de la Sainte Faculté de Théologie d'Aix, 10 paragraphes, et j'ai compté un seul paragraphe consacré à la réprobation. Vous voyez, donc c'est asymétrique. Dieu apparaît comme étant la cause efficiente du salut, il le veut, le salut, mais il est la cause déficiente pour les autres. C'est-à-dire, il laisse les non-élus dans leur état, issus de la chute, dans leur condamnation, issus de la chute. Il n'y a pas un parallélisme net et clair. Si l'élection est à l'origine de la foi, elle n'est pas la cause de l'incrédulité. La prédestination est toujours à la vie. Toujours pour la vie. Elle n'est pas à la mort. Ce n'est pas une prédestination au mal. Ce n'est pas une prédestination au péché. Oui, comme si Dieu pouvait être l'auteur du péché. Vous voyez, la réprobation n'a pas sa source en Dieu. La réprobation a sa source dans le péché de l'homme. Même s'il y a des mystères qui sont très difficiles ici. Hein. Mais alors, je dirais quand même une phrase choc là. à la fin de tout, en fin de compte, nul ne sera damné s'il ne l'a voulu. À la fin du compte, à la fin des fins, si quelqu'un là est damné, eh ben, c'est qu'il l'a voulu. La réprobation est donc la ratification par Dieu de notre acte de volonté humaine. Si la prédestination, l'élection, n'était pas venue au secours de quelques-uns en leur donnant la grâce de persister, il n'y aurait pas un seul de sauvé. Et la Bible voit la chose peut-être contrairement à nous, c'est-à-dire pour la Bible, l'étonnant, ce n'est pas qu'il y ait des perdus, des non-élus, l'étonnant, c'est vraiment alors époustouflant, c'est qu'il y ait des sauvés. Alors là, nous ne devons pas donner de leçons de miséricorde à Dieu. Et c'est vrai que il y a là quelque chose qui nous surprend. C'est ce que dit aussi Pascal, la dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Le fini, et nous sommes finis, on en sait quelque chose, le fini n'est pas capable de l'infini. Et dans la foi réformée, toute doctrine, pour être vraie, doit être comme celle qui est au tableau. Toute doctrine doit avoir deux aspects un peu contraires, deux aspects antithétiques, parce que toutes les doctrines sont en relation avec le fini et l'infini. Vous allez me comprendre là, maintenant, tout simplement. Jésus-Christ est vrai Dieu 100%. Vous voyez le pourcentage. Il est vrai Dieu 100% et il est vrai homme 100%. Chacun est vrai. Il est vrai Dieu, il est vrai homme. Si on le pinçait, il disait allez et il avait mal. Comment ça se réunit les deux? Voilà la difficulté pour notre pensée. Voilà la difficulté pour l'intelligence de notre foi. Et c'est pareil pour toutes les doctrines. L'écriture, eh bien, elle est parole de Dieu 100%. On pourrait faire encore un schéma domique au tableau, hein. L'écriture est parole de Dieu 100%, mais elle est parole d'homme 100%. Comment ça s'arrange les deux? C'est là où il faut faire un acte de foi. L'agenouillement de mon Dieu. La scène. C'est du pain? Mais oui, c'est du pain. C'est du vrai pain. Ça ne peut pas être du pain plus pain que ce pain-là. Mais en même temps, c'est le corps du Christ que je reçois dans la foi. Idem pour le vin. Il est notoire que Calvin a consacré une grande partie de ses efforts durant son ministère à Genève à combattre les adversaires de la prédestination. Ça veut dire que c'est une doctrine biblique importante pour lui. Et pour Calvin, alors attention là, ça m'a étonné cette nuit, pour Calvin, les adversaires de la prédestination, ceux qui sont contre ce que je viens de vous raconter, pour Calvin, ils sont plus dangereux à ses yeux que les papistes. Ah, vous voyez, j'ai vu ça dans le quatrième sermon sur De Timothée. Car il y a tous les commentaires de Calvin, mais il y a aussi autre chose qui sont les prédications de Calvin. Et aussi, Calvin a passé sa vie à combattre ceux qui estimaient, alors c'est intéressant pour nous, ça c'est très pratique, ceux qui estimaient que cette doctrine aux arrêtes pour vivre, cette doctrine, ceux qui estimaient que cette doctrine pouvait être passée sous silence. Je rencontre beaucoup de réformés, et de réformés dans mon milieu, si vous voulez, à la fin de l'exposé comme ça, ils diraient, bon, tout ça, c'est d'accord, mais c'est entre nous, voilà. Mais alors on n'en dit rien dans la prédication, on n'en dit rien dans la catéchèse, on n'en dit rien surtout pas dans la rue, on n'en dit rien dans l'évangélisation. Bon, on est d'accord entre nous, voilà. Hein. Il y a même des gens qui m'ont fait le coup quand je vais prêcher, ou si je dis pas, et si on parlait un peu de la prédication pour voir dans d'autres paroisses, pour voir un peu comment. Ah non, alors là, tout ce que vous voulez, la grâce, tout, vous voyez, ils sont prêts à tout, hein, à faire des quêtes pour la Sainte Faculté de Théologie d'Aix, ils sont prêts à tout, mais, pourtant ce sont des choses difficiles, hein, ils sont prêts à tout, mais alors là, la prédestination, alors là, non, vous voyez, et alors le pasteur vous dit, quelquefois il a été mon ancien étudiant, hein, il me dit, là, bon, alors vous dites rien là-dessus. Hein? Mais on est d'accord, sachez, je suis d'accord, vous voyez. Mais alors, ça, c'est pas Calvin du tout. Ça peut arranger l'un ou l'autre, mais ce n'est pas Calvin du tout. Il est contre ceux qui ne prêchent pas cette doctrine et qui préfèrent enseigner la justification par la foi. Eh bien, il dit, à tous ceux qui veulent faire comme ça, il dit, 24e sermon sur 2 Samuel, il y en a beaucoup qui s'amusent tellement à la parole qu'ils voudraient que l'élection fût ensevelie et qu'on n'en parlât jamais. Or, c'est une confusion trop lourde que celle-là, et cependant, ce qu'ils allèguent, que c'est assez que nous soyons sauvés par la foi, cela n'est rien. Cela n'est rien. Ah. Parce que elle est fondée, d'après lui, bibliquement, la doctrine de la prédestination doit être enseignée. Et elle doit être prêchée. C'est une doctrine de fidélité envers l'Écriture, et on y va et on prêche. Et se taire à son sujet, ce n'est pas seulement mutiler l'écriture en coupant, tagadant là-dedans, mais c'est, dit Calvin, c'est contrôler le Saint-Esprit qui a parlé par les prophètes et les apôtres, et il dit, c'est plus encore bâillonner Dieu, deuxième sermon au début. Donc ça sera nos travaux cet après-midi là-dessus, et comment on fait, hein? On en arrivera là, c'est bien gentil, c'est bien joli peut-être, mais comment on fait, hein? Alors, quels sont les gages de l'élection? Calvin en voit deux. La prédication de l'évangile. Et surtout, la personne de Jésus-Christ. Cinquième sermon sur 2 Timothée. Apprenons pour bien être certifiés de l'élection de Dieu et en faire notre profit de venir droit à Jésus-Christ. Car c'est le vrai miroir, Christ. C'est le vrai miroir où il nous faut regarder notre élection. Ce que nous venons de relever montre que, je rassure Michel Bonner, c'est la conclusion. Ce que nous venons de relever montre que la prédestination n'est pas pour Calvin ni pour les gens du XVIe siècle et du XVIIe siècle, une doctrine terrible, et une doctrine terrible que certains ont dénoncée. Non, c'est une doctrine pour la paix, c'est une doctrine pour la certitude, c'est une doctrine pour le repos, et c'est une doctrine qui marche, pour le coup, jusqu'au bûcher, inclusivement. C'est-à-dire, pour les réformés du XVIe et du XVIIe siècle, pour les réformés des temps classiques, on est témoin, on est martyr jusqu'au bûcher, parce qu'on croit à la prédestination. Et on ne s'ausculte pas tous les matins, en se disant « Comment va mon âme? Comment se porte spirituellement dans mon petit pot aujourd'hui ?» Pas du tout. On pense que tout est de Dieu, tout est en Dieu. Si Dieu m'a donné de le vouloir et le faire pour que je croie, il est bien capable de me maintenir la foi, et il est bien capable de me maintenir la foi, même jusque sur le bûcher, lorsque je flamberai. C'est de Dieu, il ne va pas me lâcher là au dernier moment. Alors, voyez, cette doctrine, elle est, pour ceux qui ont écouté le message de Calvin, elle est la plus grande source de réconfort. La plus grande source de réconfort. Il faudrait le dire peut-être en espagnol, là, hein. Si je dis en espagnol, ça serait beau, je ne vois pas pourquoi. La plus grande source de réconfort. Et la dernière phrase est celle-ci. Le réformé du 16e et du 17e siècle, et le réformé de nos jours, que nous sommes appelés à être, le réformé du 16e et du 17e siècle se considère comme un élu. Et c'est une certitude, c'est une joie, c'est fabuleux pour lui. Et pourquoi pas pour nous?